Palabre, en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
Avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts cévenoles et parfois des forêts francophones du monde.
Sur Radio Bartas.
107 FM.
Et bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Bartas, bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. On est comme toujours avec Virginie, bonjour.
Bonjour.
Aymeric.
Bonjour.
Léo à la technique.
Salut.
Et aujourd'hui, on reçoit une invitée un petit peu spéciale. Qui c'est qu'on va recevoir, Virginie?
Et on va recevoir aujourd'hui Anouk Sakura, qui est sculptrice à la tronçonneuse installée à Robiac Rochessadoul. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va un peu parler, beaucoup même de toi, pour savoir comment tu es devenue sculptrice à la tronçonneuse.
Moi d'abord j'étais sculptrice, mais je faisais de la sculpture ornementale, donc sculpture sur bois, restauration de meubles anciens. Et j'aime le grand volume, donc on va dire que les outils ont suivi et j'ai vraiment une passion pour la sculpture à la tronçonneuse.
Et comment tu as appris ce geste-là? Tu l'as appris toute seule ou tu as été entourée?
Alors, il n'y a pas d'école pour la sculpture à la tronçonneuse, donc j'ai appris sur le tas. J'ai beaucoup appris avec d'autres sculpteurs, car je fais beaucoup de festivals, de symposiums, donc j'ai rencontré des sculpteurs qui m'ont montré et après, je suis autodidacte.
Et du coup, tu as dit qu'avant, tu étais sculptrice avec d'autres types de méthodes, mais est-ce que tu avais reçu une formation pour cette activité-là ou tu étais aussi autodidacte
J'ai une formation en sculpture sur bois, oui, sculpture traditionnelle.
Ok. Que tu as réalisé où
À l'ESEA à Avignon, au Thor.
Donc aujourd'hui, Virginie nous expliquait que tu étais basée à Robiac, dans le Gard. Mais tu disais que tu te déplaçais sur plusieurs festivals, donc tu te déplaces sur quel secteur, partout en France ou peut-être dans d'autres pays?
Alors je me déplace dans toute la France et en Europe. Je me suis récemment déplacée en Belgique et cet été je suis allée travailler en Hongrie aussi.
Et alors quel type de bois tu travailles, quel type de dimension, les essences, etc.?
Alors, je travaille vraiment tout type de bois sur les dimensions, surtout du grand volume. Je suis spécialisée dans la sculpture d'arbres qui sont encore sur pied. Donc, quand des arbres sont malades ou doivent être coupés pour des questions de sécurité, souvent on les coupe à 2, 3, 4, voire 5 mètres de hauteur. Et du coup, je viens leur donner une seconde vie.
Super, et ça permet de garder la sculpture dans le parc, dans l'endroit.
C'est ça, après ça reste sur place. Donc, je travaille beaucoup avec les campings, avec les municipalités.
Et est-ce qu'il y a des essences d'arbres que tu aimes particulièrement travailler ou des arbres que tu retrouves plus que d'autres?
Châtaignier, j'aime bien travailler le châtaignier, que j'en ai beaucoup dans le coin. Après le noyer aussi. Après je travaille vraiment de tout, hein. Je peux travailler du pin, du séquoia, des érables. Ce week-end, j'ai fait un cerisier, donc il n'y a pas vraiment de limite, en fait.
Tu les apprécies, là, tu disais le châtaignier, par exemple, tu l'apprécies parce que tu le trouves particulièrement beau ou c'est parce qu'il est peut-être plus facile à travailler?
Pour le veinage, principalement. Après, à la tronçonneuse, tous les bois se travaillent relativement bien. Hein. Une fois que la chaîne est bien affûtée, j'ai pas de problème avec la dureté du bois. Après, il y en a qui peuvent être plus fibreux, plus cassants. J'aime un petit peu moins travailler résineux, mais ça se fait très bien aussi.
Ah oui, à cause de la résine.
Ouais, c'est ça, ça colle aux outils.
Ouais. Et après, le côté artistique, d'où ça te vient? Qu'est-ce que tu choisis de créer? Est-ce que les gens te commandent des choses? Est-ce que c'est toi qui as libre cours toujours à ton imagination?
Je travaille quand même beaucoup sur commande, ou en tout cas avec une idée. Enfin, les gens ont une idée de départ. Après, on peut adapter le sujet en fonction du volume, de l'arbre. Mais c'est quand même beaucoup de la commande. Donc j'ai beaucoup d'animaliers. Après, je fais aussi des personnages, parfois un petit peu d'abstrait.
Est-ce qu'il y a des communes, par exemple, en Cévennes, qui t'ont commandé quelque chose
où on peut Ici, j'ai à Robiac Rochessadoul, j'ai fait une Marianne, du coup, qui est à l'entrée de la mairie.
Ah, super. OK.
J'ai aussi une sculpture qui est à la communauté commune de Seyssevennes. Du coup, ça, c'est une sculpture que j'ai réalisée sur le festival Folfer, qui est un festival de sculpture qui a lieu à Bessèges tous les ans. Donc, la sculpture réalisée a été offerte à la communauté de communes. À Vallon-Pont-d'Arc, j'ai une grande sculpture un peu pliée de 4 mètres qui est en bord d'Ardèche, dans un camping, sinon dans le coin. Je suis en train de réaliser un parcours de sculpture pour le domaine de Sevigny à la Gorse.
Ok, super.
Donc il y a moyen de voir ton travail un petit peu sur le territoire, c'est chouette. Moi je me demandais quelles sont les compétences ou les qualités qui sont nécessaires pour réaliser cette activité. Est-ce que ça demande une... je sais pas, j'imagine qu'il faut de la dextérité, peut-être un peu de force aussi pour pouvoir sculpter toute la journée et porter la tronçonneuse.
Je dirais avant tout, il faut de la passion. Hein. C'est un métier passion avant tout. Après, ça reste physique. Hein, donc, il faut un petit peu d'entraînement. La dextérité, ben, c'est surtout se mettre en sécurité avec les outils. Hein, donc, toujours avoir les vêtements de protection, pantalon anti-coupure, c'est vraiment indispensable. Chaussures de sécurité, casque et lunettes. Et après, de l'entraînement, hein, il faut s'entraîner.
Et en parlant d'entraînement, j'ai entendu parler aussi de ton travail en tant que championne.
Alors, je suis finaliste des championnats de France, je ne suis pas championne.
Finaliste.
Je suis la seule femme au championnat de France. Donc,
c'est merveilleux ça, bravo.
Voilà, mais donc une partie de mon travail, c'est aussi les concours, les symposiums.
D'accord. Et oui, parce que donc, c'est le concours, en fait, le championnat de France de sculpture à la tronçonneuse, c'est ça ?
C'est ça.
Ça se passe où ?
Alors, ça dépend des années. Cette année, c'était à Pont-sur-Yonne.
Okay.
L'année dernière, c'était à Brulon dans la Sarthe. Et après, ça dépend des structures qui peuvent nous accueillir. Hein. On est quand même 12 en finale, donc ça demande D'accord. quand même des moyens.
Et donc, tu as été la seule femme parmi les finalistes à rester à concourir, quoi ?
Depuis 2 ans, je suis la seule femme au final, oui.
Ok, d'accord. Eh ben, en tout cas,
sur les sélections aussi, en fait, il y en a très peu en France.
Ah, ok. Ça, est-ce que toi, c'est quelque chose... du coup, oui, tu fais un métier singulier où on trouve beaucoup plus d'hommes, c'est ça ? Et il y a quelque chose de différent pour toi ? Ça a été difficile de t'insérer dans ce milieu ou pas ?
Non, parce que tous les sculpteurs sont vraiment bienveillants, j'ai aucun problème avec ça.
Super.
On aimerait voir un peu plus de femmes, mais moi je forme des femmes. Donc, à l'étranger, c'est bien plus répandu, donc je pense que ça va venir en France aussi.
D'accord. Et tu peux donner des cours également ?
Moi, je fais de la formation, oui, sur une journée ou deux.
Et du coup, s'il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui sont intéressés pour être formés, comment ils doivent s'y prendre pour te contacter ?
Via mon site internet, il y a toutes mes coordonnées.
Ok.
Par mail ou par téléphone.
Ton site internet, du coup, est-ce que tu peux nous le donner ?
C'est anouk-sakura.com.
Ok. Et du coup, j'imagine qu'on peut voir aussi certaines de tes réalisations. Enfin, je pose la question, mais j'ai déjà été voir. Mais...
oui, bien sûr, on peut voir mes réalisations.
On demande parfois à nos invités de dire un petit mot forestier, si ça te dit... alors, ça peut être un souvenir en forêt ou avec un arbre, une anecdote, si tu as envie d'en parler.
D'accord. moi, quand j'étais petite, j'avais un chêne qui était dans mon jardin et j'adorais y passer beaucoup de temps. Et c'est là où, je pense, j'ai fait mes premières créations. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de créations avec des brindilles, des cailloux, etc. Donc... J'ai toujours aimé les arbres et la forêt et je pense que ça m'inspire pour créer.
Trop chouette. Merci beaucoup, Anouk.
Merci, Anouk.
Merci. Et c'est l'heure de la petite pause musicale. Je crois que Virginie avait une idée pour nous divertir.
oui, allez, un petit birdie nam nam avec le titre Abbess. Thank you.
We'll be right back.
mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui arrive là? Mais c'est Aymeric Sulmon, garde-moniteur du Parc National des Cévennes, et qui arrive avec sa fameuse chronique Plantes et animaux des bois. Plantes et animaux des bois.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Alors, Aymeric, tu es là. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Oh, je vais vous parler coléoptères. J'ai le droit?
Oh oui,
oui.
Ah, oui, voilà les petites bêtes qui ressemblent.
Il y en a beaucoup dans le sol.
Ah oui, il y en a plein.
Oh. Voilà.
J'en avais déjà parlé sur cette émission. Mais je voulais profiter, en fait, on vient de faire nos sessions. On a un groupe coléoptères au parc qui étudie notamment, et c'est un lien complètement avec la gestion forestière, on étudie principalement les coléoptères du bois mort, qui sont liés donc à la gestion forestière et qui sont liés à la présence de bois mort dans nos forêts.
Coléoptères saproxyliques.
Les fameux coléoptères saproxyliques. Je ne voulais pas le dire, le mot saproxylique.
J'ai senti que tu ne voulais pas le dire.
Voilà. Donc, qui s'occupent et qui ont un lien direct avec le bois mort. Alors, soit parce qu'ils mangent du bois mort, soit parce qu'ils mangent des champignons qui mangent du bois mort, soit parce que ce sont des prédateurs d'insectes qui mangent du bois mort. Okay. C'est tout ça qui fait que on appelle ça des insectes on les appelle sapros pour aller vite. Ils profitent en fait du bois mort. Et on vient de finir notre session de détermination des coléoptères parce que chaque année, depuis une dizaine d'années maintenant, on met des pièges, on appelle ça des pièges à interception. Je peux expliquer vite fait en quelques mots. C'est des pièges qui récupèrent les insectes au vol en journée et qui les récupèrent dans des entonnoirs. Ils sont sacrifiés pour la science, entre guillemets. Donc, on les récupère morts dans un liquide fait de sel, d'alcool et de qui permet de les conserver, en gros. Et on les étudie après pour avoir une idée de la diversité dans telle ou telle forêt de ces insectes saprocyliques. Et on localise, évidemment, comme on n'a pas une capacité de détermination folle, on localise nos pièges dans les forêts qu'on considère les plus jolies, avec le plus de bois de mort, pour faire au fil des années une sorte de référentiel de qu'est-ce qu'il y a dans les forêts cévenoles. Et depuis 10 ans, ben, on n'arrête pas les découvertes. Ce travail, il est accompagné par le laboratoire d'entomologie forestière qui est basé à Quillan, dans l'Aude, et qui nous accompagne depuis le début, qui nous forme à la détermination des insectes, et qui a un travail de plusieurs 20 ou 30 ans maintenant, où ils étudient ce groupe taxonomique des insectes, des coléoptères du bois mort, depuis 30 ans, et donc ils ont une bonne idée de la répartition, de la diversité, de la rareté, et donc de ce que veut dire la présence d'un insecte sur la forêt et la qualité de cette forêt, son rôle indicateur quand il est présent. Et donc cette année, on était très contents, on a fait des piégeages à droite à gauche, on en a fait notamment du côté de Trèves, à l'autre bout du parc, côté gare, dans une chênaie. On en a fait un autre dans une solée qui était moins riche du côté de Barre des Cévennes, une toute petite solée. Et puis on a fait dans une pinède du côté de la forêt du Galaison.
Comment vous choisissez les
eh ben,
parcelles?
Alors, ça peut être un peu par hasard. Soit on nous signale, ça peut être des forestiers qui nous signalent des forêts particulièrement riches en bois mort, c'est ce qui nous intéresse le plus. Nous-mêmes, quand on est dans nos prospections terrain à droite à gauche, on peut tomber sur des forêts qui nous paraissent très intéressantes. Comme on est en lien avec le laboratoire d'entomologie forestière, qui est en fait une sorte de bureau d'études qui appartient à l'ONF, entre guillemets, on essaye de choisir préférentiellement sur des forêts gérées par l'ONF, mais pas que, parce que la gestion forestière pratiquée par l'ONF, l'idéal c'est quand il n'y a pas forcément de gestion, justement, pour qu'on ait un maximum de bois mort au sol. Et on va aussi piéger dans des forêts privées, parce qu'on s'aperçoit que des fois dans ces forêts privées, comme il y a eu zéro gestion forestière depuis 50 ou 100 ans, eh ben, on a des dynamiques forestières qui sont particulièrement intéressantes et qui vont être plus difficiles à trouver en forêt gérée, sauf à aller dans les fameuses réserves biologiques domaniales ou les biologiques intégrales, comme on en a aussi quelques-unes dans le parc des Cévennes. Et donc là, je voulais insister sur une forêt qu'on a piégée du côté de la vallée française, le fameux vallon. Alors pourquoi je dis fameux? Parce qu'il est fameux que de ceux qui le connaissent, hein, mais on dit toujours comme ça quand on veut mettre un accent sur un lieu. Moi j'appelle le fameux vallon des Terrades. Le vallon des Terrades, il a quelque chose d'exceptionnel au niveau du parc, c'est que c'est la zone cœur du parc la plus basse en altitude. On descend en dessous des, quasiment en dessous des 300 mètres. Et ça, si on va tout en haut du vallon, on est quasiment 900, au-delà de 900 mètres. C'est plus que voilà, on a un vallon très chaud qui est situé principalement couvert de chênes verts et de vieilles châtaigneraies. Et comme on avait assez peu de référentiels dans la vieille châtaigneraie sous influence méditerranéenne, et qui plus est en cœur de parc, ça nous intéressait un peu plus, eh ben, on a fait un piégeage là-bas. Et ça a été bingo parce que. Je vous fais pas un long discours hein, sur la diversité, mais globalement, dans une forêt, la plupart du temps, quand on piège, on est entre 80 et 120, 130 espèces pour une seule forêt de coléoptères. Et là, c'est pas tant la diversité, on n'a pas encore le chiffre exact, mais peu importe, c'est plutôt la diversité, la richesse en espèces patrimoniales. Donc, chaque espèce, on lui attribue un indice de patrimonialité qui est en fait une sorte de compilation de la rareté de l'espèce et de ce qu'elle veut dire au niveau fonctionnalité. Et souvent, voilà, un indice de patrimonialité fort, c'est par exemple 4, c'est une espèce qui est très rare en France et qui est souvent liée à la présence de très gros bois en forêt. Et à l'inverse, une espèce qui est très fréquente et qui est liée à des petites branchettes en forêt, comme il y a dans toutes les forêts, celui-là, il a un indice patrimonialité faible. De ça, on appelle ça IP1 ou IP4 quand c'est très fort. Et donc là, on en avait plusieurs qui étaient IP4 et IP3. Donc, on était très contents des résultats. Et je voulais juste, pour vous faire chanter du latin, vous les citer et puis vous raconter 2-3 petites anecdotes sur ces insectes. Donc, il n'y en avait pas moins de 8 espèces à forte patrimonialité qui fait de cette forêt, carrément à l'échelle française, quelque chose d'assez original. Il y a au moins 2 espèces qui sont extraordinaires. Et tout ça, ça nous contribue à nous motiver. D'abord parce que ce groupe taxonomique des coléoptères, il est méconnu, il mérite encore d'être connu, mais surtout il est révélateur de petites tendances au niveau de la gestion qui pourraient être améliorées, en tout cas sur les autres forêts. Et je vais vous expliquer en quelques mots. Alors je vous cite le premier. C'est que du nom latin, ça va être horrible pour ceux qui connaissent pas le latin. Tant pis, je prends le risque. Le premier s'appelle Rhizophagus unicolore. Voilà, c'est un petit nom, peu importe son petit nom. Ce qui est important de savoir sur cet insecte, c'est qu'il est prédateur de scolytes. Les scolytes, c'est les mal-aimés de la forêt. On les aime pas. Alors quand on sait qu'il y a un insecte qui est prédateur de scolytes, on dit qu'on va l'aimer celui-là. Et ce qui est original chez cet insecte, c'est qu'il est réputé, donc il est très très coté au niveau indice de patrimonialité. Tout simplement, et c'est notre hypothèse, hein, parce qu'on l'a trouvé dans toutes les chênaies vertes qu'on a inventoriées. C'est la 3e chênaie verte où on pose des pièges. Et à chaque fois, on l'avait en très petit nombre, donc il est quand même rare, certes. Mais dans toutes les chênaies vertes qu'on a inventorié, on l'avait. Donc on suppose que, d'une part, la chênaie verte, c'est rarement un habitat géré par l'ONF. Il y a quelques forêts qui sont gérées par l'ONF pour le bois de chauffage en chênaie verte. Mais du coup, ça limite en termes de taille de bois. Et on suppose que cet habitat, il est sous-représenté dans les forêts qui sont inventoriées par le laboratoire d'entomologie de Quillan. Et ça pourrait expliquer pourquoi il est rare. C'est toujours comme ça. Il est peut-être rare parce qu'on ne le cherche pas là où il faut. Donc ça, c'est la première hypothèse. Il y a un autre insecte qui s'appelle Hippulus Quercinus. Alors, il est très joli. Je ne veux pas vous irez voir. Ça bouille. Alors, lui, il a besoin de petites branches en forêt. Donc, finalement, on ne sait pas pourquoi il est rare. Et là, il y a plein de choses qui expliquent la rareté d'un insecte. Souvent, il est peut-être sur des petites branches, mais il vit à des niveaux d'altitude qu'on a du mal à inventorier. Et ça, c'est des nouveautés qui nous arrivent. C'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs méthodes de connaissance et d'inventaire des coléoptères. On peut y aller à vue, et c'est là où on voit le moins de choses. C'est-à-dire, vous allez 2 jours dans la forêt et vous grattez le sol, le bois mort, machin, vous cherchez des insectes, vous vous rendez compte que vous trouvez trois fois rien, 10, 20, si vous avez la chance, 30 espèces. Vous regardez dans les fleurs, là, vous commencez à avoir un peu plus d'espèces. Mais vous trouvez rien par rapport à ce que vous pouvez obtenir par les pièges à interception, qui sont des pièges en plastique un peu particuliers. Et si vous y allez de nuit, à la frontale, vous commencez à voir plus de choses parce que les élytres brillent et c'est très très amusant parce qu'on voit briller toute la forêt. Mais alors, si vous utilisez des pièges lumineux, c'est encore autre chose. Vous touchez une autre gamme d'insectes qu'on a du mal à trouver. Et les méthodes de piégeage évoluant, aujourd'hui, il y a même des piégeages qui sont connus depuis longtemps mais qu'on n'a jamais trop pratiqué en Europe, les piégeages en canopée. La canopée, c'est le haut de la forêt. Et c'est le sommet, c'est en gros, quand on est en haut, on a l'impression d'être sur une prairie, mais en fait, c'est le haut de la forêt. Et bien là, il se passe des choses et des diversités et d'espèces qu'on n'a pas idée quand on est en bas.
Ouais, pardon, comment tu vas les chercher ?
Eh bien, c'est tout le problème, c'est qu'on n'a pas la fameuse montgolfière là, de notre forestier, j'ai oublié son nom, le radeau des cimes. C'est
Francis
Salé. Ah. Ouais. On n'a pas le radeau des cimes.
Avec des drones, tu peux faire voler un drone. Mais
ouais,
je suis
c'est ça. Mais oui, en fait, il faut faire des piégeages sur plusieurs. Non, mais c'est très compliqué. Il faudra utiliser une nacelle, il faudrait monter à la corde, installer le piège. Ça se fait, hein. Et ça révèle du coup des nouvelles données et ça permet de rééquilibrer certains insectes qu'on croyait rares. En fait, finalement, c'est juste qu'ils habitent en haut. Voilà, donc cet insecte, c'est probablement ça. Je vous donne un autre insecte, Cardioforus gramineus. Vous savez ce que ça veut dire, Cardioforus ?
Je sais pas, mais avec...
Qui perce le cœur.
Cardioforus. Le cœur. Force qui porte, cardio qui porte un cœur. C'est parce qu'il a juste un petit cœur sur le dos.
Mignon. C'est trop mignon. Voilà, mignon.
En plus, il est rouge et noir. Ah. C'est un taupin, vous savez ce que c'est les taupins ? C'est les vers de farine.
Ouais.
On les aime pas, ceux-là.
Non.
Non, mais pourtant, c'est des carnivores qui sont très pratiques pour limiter l'invasion de certains prédateurs. C'est toujours intéressant. Lui, il aime bien les pourritures de champignons dans la forêt. Je pourrais insister sur un habitat particulier. Et vous savez, les taupins, quand vous les attrapez dans la main, ils vont faire un clic. On appelle ça les click beetles en anglais, ça veut dire les scarabées qui font clic, parce qu'ils ont une sorte de ressort sous le cou qui leur permet de sauter, en fait, de sauter et de créer un petit moment un peu d'incompréhension pour un prédateur, c'est-à-dire il se retourne et puis il va pouvoir s'échapper. Et quand on l'a dans la main, on le met sur le dos et il va sauter. C'est très rigolo. Le taupin saute. C'est pour ça qu'on appelle ça click beetle. Le quatrième, il en reste 5, hein, vous allez être horrible à la fin. Bon, allez, le quatrième. Alors, lui, il s'appelle Salpingus tapirus.
Ah oui.
Alors, c'est pas le tapir des forêts, mais c'est l'ornithorynque. Parce qu'il a une bonne tête d'ornithorynque. Il a comme si c'était un canard fastidieux.
Alors attends, quand même, tu nous parles de ces insectes depuis tout à l'heure, ils font quelle taille à peu près?
Ah oui.
Ils ont tous des tailles différentes.
Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Ça, c'est le truc déprimant. Il y a deux choses qui sont, entre guillemets, pour le néophyte, déprimant pour les coléoptères. C'est d'une part, vous allez en forêt, vous n'en voyez pas.
Ouais.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on utilise les piégeages. Et la deuxième truc déprimant, c'est que c'est tout petit.
C'est
la 80% des coléoptères sont en dessous de 3-4 mm.
Ah oui.
Et le reste, c'est au-dessus. Donc, quand c'est au-dessus, t'es content. Oh, une grosse bête. En général, c'est facile, elles sont bien connues. Et tout est en dessous. Donc là, lequel est plus grand que 4 mm dans ce que je vous ai appris? Peut-être le deuxième et le troisième, ils sont plus grands. Là, le Salpingus tapirus, c'est tout petit, c'est 2-3 mm.
Ok.
Et là, ce qui est original, c'est la répartition de cet insecte. Pour l'instant, c'est Cévennes et Béarn et Pays Basque. Donc, le point commun entre Cévennes, Béarn et Pays Basque.
C'est moi.
C'est toi.
J'ai deux origines basques.
C'est toi qui c'est ça. Mais du coup, la répartition de cette espèce est très méconnue. Pour l'instant, on considère que c'est très rare.
Ah oui,
peut-être, en fait, tout simplement, on sait, et c'est ce que disent les spécialistes, pour l'instant, la biologie n'est pas bien connue. On ne sait pas exactement ce qu'il a besoin dans une forêt pour s'installer. Visiblement, c'est la chênaie ou la châtaigneraie, ce qu'on trouve dans ces deux forêts, entre Cévennes et Pays Basque, mais on n'en sait pas plus.
Parce que le climat est bien différent quand même.
Voilà, il y a encore un océan de connaissances à acquérir sur tous ces insectes. Bon, je vous en donne d'autres, je ne dirai pas grand-chose dessus. Micetocara humeralis. Voilà, huméralis, parce qu'il a des taches sur les humérus. Bref, lui, il est protégé en Allemagne, et donc il est très rare aussi en France. Je vous en cite un autre, Opilopallidus. Alors lui, c'est encore des prédateurs, et c'est typique. Apparemment, les observations les plus abondantes, c'est quand les châtaigneraies sont en fleurs. Mais quand les châtaigneraies sont en fleurs, voilà, il faut avoir le temps d'aller tout en haut, là où on a les feux d'artifice de fleurs, pour essayer de le capturer. Et ça aussi, c'est un insecte donc très rare en France et qui est intéressant parce que globalement, il a probablement besoin, c'est un peu des questions qu'on se pose, mais comme beaucoup d'insectes, les prédateurs, souvent, ils ont besoin d'habitats forestiers plus matures que les ravageurs. Et c'est pour ça que les ravageurs font beaucoup de dégâts dans des jeunes forêts. Parce que justement, il n'y a pas le côté bois mort, il n'y a pas le côté résilience d'une forêt. Je l'avais déjà expliqué ça, c'est que bien souvent, quand vous avez une forêt qui fonctionne bien, qui est fonctionnelle, elle a une capacité de répondre très rapidement à la présence d'un ravageur.
Et voilà.
Et donc, voilà, quand on a de nombreux habitats pour les prédateurs dans une forêt, eh ben, on va avoir des chances on sera plus résilient face à l'arrivée d'un scolyte ou d'un autre ravageur de la forêt.
Oui, c'est parce que bon, c'est vrai que la plupart des gens, en fait, les insectes, ils se disent c'est pas sympa, ouais. Voilà, on n'aime pas avoir ça en forêt. Mais si, et tu viens de nous expliquer pourquoi chacun peut avoir sa fonction pour aider à se protéger, voilà, contre les aléas des prédateurs, des coups durs du climat.
Exactement, ouais. Deux derniers, puis il y en a un qui est très joli. Alors, on appelle ça les bupresses. Les bupresses, je vous
épargne le nom.
Ouais, Eurythyrea, Quercus, peu importe. C'est magnifique, les bupresses. Les bupresses, on appelle ça les bulldogs des coléoptères. Mmh. Pourquoi les bulldogs ? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont couru après les voitures. Vous savez, les bulldogs, on dit que c'est des chiens qui ont couru après des voitures arrêtées. C'est pour ça qu'ils ont le nez aplati.
Un peu.
Et le bupresse, t'as le nez aplati. Mmh. Ça, du coup, ça ressemble à un vrai écusson. Et du coup, il a énormément été, encore aujourd'hui, dans les forêts tropicales, il a été utilisé pour faire des bijoux ou même carrément des parures à l'aide de milliers de buprestes, parce que la plupart des buprestes sont extrêmement colorés, de couleurs métalliques, avec des verts, des bleus, des rouges, des violets. Et celui-là, c'est des verts avec des nuances de bleu. Donc très très beau, et en plus c'est un gros insecte qui fait 3 cm.
Oh mon Dieu,
donc,
c'est, ouais,
c'est le plus beau de tous. Et lui, il aime bien la chaîner. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Quercus d'ailleurs à la fin. Et voilà, je termine par le dernier au nom imprononçable, Holonotroscus laticolis, qui lui, ben, c'est tout simplement la 3e localité de France pour cet insecte. Et vous savez quoi, la 2e localité, c'était déjà français, c'était déjà dans une forêt qu'on avait inventoriée. Donc on a 2 localités des 3 pour cet insecte en Cévennes. On est très fiers de ça. Voilà, je voulais en parler parce que c'est une fierté collective. C'est vraiment pas, je suis pas tout seul, et que ce groupe des coléos du parc, c'est on a acquis une capacité collective, c'est-à-dire que chacun de nous tout seul dans une forêt ou devant des insectes, on n'est pas très bon. Mais comme on est nombreux autour de la table quand on détermine, en fait, l'un et l'autre, on se complète et on a vraiment ce qu'on appelle une compétence collective. Et je trouve ça assez unique, et dans ma vie professionnelle, moi j'ai trouvé ça assez génial de vivre ça, de vivre un truc où seul on n'est rien, et quand on est beaucoup, on est compétent, on se sent à l'aise pour déterminer et avancer sur ces groupes-là.
Petite dédicace au groupe Coléo du Parc des Arts.
Voilà, ouais, je fais un petit message à mes collègues, je les aime bien. Voilà, je ne sais pas si j'aurai d'autres aventures à vous raconter sur ces coléoptères, mais bon, en gros, l'idée, c'était de parler de la diversité des habitats, de l'importance du bois mort toujours au sol, et que ça nous aide à avoir des forêts résilientes. Donc je martèle ça depuis le début, je crois, cette histoire de bois mort au sol. Et donc à chaque fois, je dis la même
chose. Et oui, il ne faut pas faire propre.
Non, il ne faut pas faire propre. Et oui, mais je me rends compte que moi-même, quand je vais faire mon bois de chauffage en châtaigneraie, j'ai tendance à aimer le bois déjà tout sec et mort. C'est pas bien. Il faut être patient quand on fait du bois mort. En fait, il faut mieux couper des bois sains et les faire sécher.
Ah ouais, c'est une rotation.
Plutôt que de couper un arbre mort, même s'il est déjà sec, parce que en gros, on va tuer beaucoup de vie en tuant un arbre mort, plus que ce qu'on va tuer en coupant un arbre sain et vivant. C'est assez paradoxal comme idée, mais c'est... Mmh. On avait cherché une phrase pour expliquer tout ça, mais...
Et oui, tu nous parlais voilà, de tous les insectes, et ça me ferait repenser au fameux jeu du parc national Forêt Vivante. Mais c'est un jeu super cool, il faut le dire. Et où on peut, justement, grâce à vos cartes, gagner des points grâce aux insectes, hein, là, quand même. Mais au-delà de ça, du gain, c'est surtout qu'on a à chaque fois les explications. Et c'est assez fabuleux. Ce jeu est très sympathique. On s'y prend vraiment. C'est le nouveau Monopoly des temps modernes. Et j'en profite pour annoncer une petite date. Le jeudi 19 février, sur Alès, il y aura une session de jeu Forêt Vivante qui sera proposée par le CRPF et je crois avec l'appui du Parc National. Voilà, ce sera 19 février pour ceux qui veulent y participer.
Très bien.
Eh ben, merci tout le monde.
Merci.
Merci Aymeric.
À bientôt.
Pour ta rubrique passionnante. Et passionné.
Vous avez retenu tous les noms latins ?
Ouais, ouais,
assurément.
On va arrêter l'émission maintenant, du coup. Voilà. Et à bientôt sur Radio Barthes 107 FM.
À très bientôt.
Palabre en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
Avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts cévenoles et parfois des forêts francophones du monde.
Sur Radio Barthes
107 FM. Latitude 500, longitude 36.